Voilà, ben merci pour ces mots d'accueil et bonjour à chacun. C'est une joie pour nous de nous retrouver parmi vous. Je vous invite à prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Seigneur, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole et nous te prions de nous conduire par ton esprit dans la méditation de cette parole, que tu nous rendes les uns et les autres réceptifs à ce que tu veux nous dire. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, je vous propose de lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, et je vais lire le texte dans une traduction que j'ai réalisée moi-même à partir de l'hébreu, mais que vous pouvez retrouver dans l'un des livres qui est sur la table. Ecclésiaste, donc, chapitre 3, à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce qu'on prend dans ses bras, un temps pour chercher et un temps pour considérer comme perdu, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui œuvre retire-t-il de son pénible labeur ? J'ai considéré les activités que Dieu assigne aux humains pour qu'ils s'y occupent. Dieu fait toutes choses belles en son temps. De plus, il a mis dans la pensée des humains la notion de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour les humains, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant leur vie, et aussi que lorsqu'un homme mange, boit et se donne du bon temps au milieu de son dur labeur, c'est là un don de Dieu. Je sais aussi que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui est aujourd'hui a déjà été par le passé, et ce qui sera demain a déjà été par le passé. Oui, Dieu fait revenir ce qui appartient au passé. J'ai encore constaté que sous le soleil, l'iniquité règne au tribunal et l'on rencontre le crime au lieu où l'on administre la justice. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car en ce qui concerne le jugement, il y a un temps pour toute affaire et pour tout acte. Dans ce texte, l'Ecclésiaste traite du temps et de l'histoire en considérant d'abord l'activité humaine, dans les 10 premiers versets, puis l'œuvre de Dieu, au verset 10 à 15, et il termine par une pensée concernant le jugement de Dieu sur l'activité humaine. Le premier verset introduit le développement sur l'activité humaine par une affirmation générale, qui sera développé dans la suite à l'aide d'exemples concrets. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Puis, dans les versets suivants, revient 14 fois le refrain « Un temps pour, un temps pour, un temps pour, un temps pour ». C'est comme les coups d'une horloge marquant le temps qui passe inlassablement, inexorablement, au fil des heures et des jours, un temps pour, un temps pour. Alors évidemment, La référence à une horloge est anachronique. Il n'y avait pas d'horloge au temps de l'Ecclésiaste. Les moments de la vie se succèdent, différents les uns des autres, contraires les uns aux autres. On a là 14 paires d'activités contraires. 14, c'est 2 × 7. Et 7, c'est le chiffre de la totalité. Alors on peut penser que ces activités sont mentionnées à titre typique de toutes les activités qui occupent l'être humain pendant sa vie. Il va être question de la vie en général, de diverses activités humaines, de la vie affective, de l'usage de la parole. Et la conclusion du poème des 8 premiers versets vient au verset 9. Quel avantage l'homme retire-t-il de son pénible labeur ? Cette conclusion est négative. Et elle exclut donc une interprétation positive du poème du début du texte. Et par exemple, l'interprétation selon laquelle l'Ecclésiaste ferait un simple constat pragmatique affirmant qu'il y a un moment approprié pour chaque chose dans la vie. Non, c'est quelque chose de plus négatif qu'il constate. Mais on y reviendra. Verset 2, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Alors dans certaines traductions, on dit il y a un temps pour naître, mais le sens du verbe hébreu, c'est plutôt un temps pour enfanter. Et il y a là un paradoxe. Nous sommes capables de transmettre, de donner la vie, mais nous ne pouvons pas la garder pour nous, car il nous faut mourir un jour. La vie a une fin. Elle est caractérisée par un manque de permanence. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Planter, arracher sont des actes contraires. Un plant que l'on a mis en terre finit par mourir et l'on doit l'arracher pour en planter un autre. Il faut parfois défaire ce que l'on a fait pour recommencer. Là aussi, un manque de permanence s'attache à nos activités et à nos réalisations. Verset 3, il y a un temps pour abattre et un temps pour soigner. Le premier verbe s'emploie pour l'abattage d'un animal ou pour la mise à mort violente d'êtres humains. L'Ecclésiaste ne précise pas à quoi il pense ici, mais comme ça vient juste après la mention d'une activité agricole, plantée, arrachée, on peut penser ici au traitement que l'on dispense aux animaux. Il y a un temps pour soigner l'animal malade ou blessé, ou pour prodiguer ses soins au petit nouveau-né. Il y a un temps pour abattre l'animal, soit parce qu'il est malade ou trop vieux, ou soit que le moment est venu d'en tirer la viande. Il y a aussi un temps pour la chasse. Mais donc on est amené par là à 2 activités contraires, soigner et abattre. On aura soigné la bête pour éviter de la perdre, et ça aura pu amener son propriétaire à s'attacher à elle. Et alors ça lui rendra peut-être quelque peu douloureux de l'abattre le moment venu. Vous avez peut-être vu ce film « Heureux qui commulis », ce film où Fernandel joue le rôle d'un palefrenier qui est attaché à un cheval avec lequel il a vécu beaucoup de choses, et puis le propriétaire du cheval veut l'envoyer aux arènes se faire massacrer par des taureaux. Et Fernandel, il ne peut pas s'y résoudre, il fait tout pour faire échapper le cheval, tellement il lui est attaché à faire échapper le cheval à ce sort. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Certaines choses que l'on a construites finissent par s'user ou s'abîmer ou par perdre de leur utilité. Et il faut les démolir pour reconstruire. Il faut parfois démolir quelque chose d'ancien avant de construire quelque chose de plus adapté. Un manque de permanence s'attache à ce qui a été réalisé par le passé. De plus, il est exaltant de construire, il est pénible de démolir. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Les circonstances nous apportent du bon et du mauvais, des sujets de joie et des malheurs. Le bien est limité par ce qui est mauvais. On ne peut retenir ce qui nous donne de la joie, ni arrêter le temps sur les bons moments. Les mauvaises passes alternent avec les beaux jours. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Alors, ce texte a reçu plusieurs interprétations qui consistent à imaginer diverses situations dans lesquelles on doit tour à tour jeter des pierres ou en ramasser. On peut sans doute penser à un travail de maçonnerie, mais cette activité a déjà été évoquée au verset 4. L'Ecclésiaste avait-il une situation précise en vue ? Je l'ignore. En tout cas, on a ici encore l'idée que la vie nous amène à faire des choses contraires les unes aux autres. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Notre vie affective rencontre, elle aussi, des limites. Les circonstances éloignent parfois de nous ceux que nous aimons. Il est bon d'avoir des enfants. Il est d'autant plus douloureux de les voir partir et s'installer à l'étranger, parfois sur un autre continent, comme cela arrive parfois. Il est bon d'avoir des amis, et cela prend du temps de tisser de réelles et profondes amitiés. Mais les circonstances, un déménagement par exemple, peuvent séparer les meilleurs amis du monde. Il y a donc là encore un manque de permanence, cette fois dans nos relations avec ceux qui nous sont chers. Ce qui ne veut cependant pas dire qu'il ne faut pas nous investir dans nos relations. Il y a un temps pour embrasser au sens de prendre dans ses bras. Puis verset 6, un temps pour chercher et un temps pour considérer comme perdu. Le manque de permanence caractérise encore les objets auxquels nous tenons. Parfois, il faut chercher tel objet égaré. D'autres fois, il faut accepter d'avoir perdu. La recherche est pénible. Quoi de plus agaçant que la recherche d'un objet ou d'un papier dont on a un urgent et pressant besoin, mais sur lequel on n'arrive plus à mettre la main ? L'acceptation d'avoir perdu est aussi pénible. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Les choses s'usent, se dégradent, deviennent inutilisables et nous connaissons la frustration de devoir jeter ce qui nous a bien rendu service, parfois sans trouver aussi bien en remplacement. Lorsque nous sommes arrivés à Mulhouse, nous avons acheté une machine à laver chez Cora à Wittenheim. Elle nous a fait 25 ans. Je doute que la suivante dure aussi longtemps. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. C'est ici la même idée appliquée aux vêtements, aux pièces de tissu. Il y a un temps pour coudre un nouvel habit ou pour coudre, pour réparer un vêtement et un temps où le tissu est trop usé ou endommagé. Manque de permanence qui s'attache aux objets. Verset 7, toujours un temps pour se taire et un temps pour parler. Et peut-être l'Ecclésiaste veut-il mettre en avant la difficulté de savoir comment agir, puisqu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il n'est pas toujours aisé de discerner quand il faut se taire et quand il faut parler. La même remarque vaut d'ailleurs aussi des autres activités mentionnées au verset 6 et 7. Il n'est pas toujours facile de savoir jusqu'où il faut chercher l'objet égaré et à partir de quand il faut se dire que l'objet est perdu. Jusqu'à quand il faut garder et quand il faut jeter. On ne sait pas toujours si garder sera utile pour l'avenir ou non. Et parfois, on garde des choses au cas où et puis le jour où on en a besoin, on a oublié qu'on les a gardés, ou bien on ne sait plus où on les a mises. La vie n'est pas simple parce qu'elle nous amène à accomplir tour à tour des gestes contraires. Et puis il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Alors dans l'Ancien Testament, le verbe haïr n'a pas nécessairement une valeur négative. Dieu dit lui-même qu'il hait le pécheur, c'est dans le psaume 5. La haine, c'est la disposition que Dieu adopte à l'égard de ceux qui font le mal et qui pousse Dieu à les châtier selon les exigences de la justice. Et il peut aussi y avoir une haine humaine légitime semblable à celle de Dieu. Dans le psaume 139, le psalmiste dit qu'il a de la haine, une haine parfaite pour ses ennemis. Il s'agit là de la disposition qu'a le roi à l'égard du criminel et qui va pousser le roi à sanctionner le mal qui est commis par le criminel. Ou encore, il s'agit de l'attitude que l'on a à l'égard d'un ennemi contre lequel on est en guerre. Les circonstances peuvent conduire parfois à manifester ce genre de haine et à faire la guerre. De manière plus générale, les circonstances nous obligent parfois à faire des choses que nous voudrions ne jamais avoir à faire. Des choses peut-être dont nous avons eu l'illusion que nous ne les ferions jamais. Ne nous est-il pas arrivé, en voyant quelqu'un accomplir tel acte, de dire « je ne ferai jamais cela » pour nous trouver plus tard dans des circonstances où nous avons fait précisément la même chose ou quelque chose de similaire. De nombreux chrétiens ont participé à la dernière guerre mondiale pour défendre notre pays, même si ce n'était pas de gaieté de cœur. Et si vous passez par Phalsbourg, à l'entrée de la ville, vous verrez un char qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette guerre, ce char était conduit par le pasteur Guy Appéré, que plusieurs ici ont bien connu. La vie nous oblige parfois à accomplir des choses qui sont contraires à ce que nous souhaiterions du point de vue d'une éthique idéale. Alors la pratique de la morale s'en trouve relativisée. La pratique d'une morale idéale est rendue impossible. Car le bien idéal, c'est-à-dire le bien que nous pourrions accomplir si les circonstances étaient idéales, le bien idéal est inaccessible. Et nous n'avons parfois le choix qu'entre plusieurs maux ou entre plusieurs options qui laissent toutes à désirer. Alors bien sûr, ce n'est pas là une excuse pour faire n'importe quoi et encore moins un encouragement à agir n'importe comment. C'est tout simplement le constat d'un drame. On a là certainement les affirmations les plus dramatiques de ce texte. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Alors dans ce poème des 8 premiers versets, dans ce poème pris dans son ensemble, le temps est senti comme un maître qui nous domine, qui nous apporte du bon pour nous l'enlever ensuite, qui limite le bon, qui apporte parfois le malheur à la place sans que nous n'y puissions rien. Les bons moments ne durent pas toujours. On ne peut pas arrêter l'horloge du temps sur les bons moments. Heureusement, c'est vrai aussi pour les mauvais moments. Eux non plus ne durent pas toujours. Il faut souligner autant la présence du bon que celle du mauvais. Et puis le temps nous conduit à construire et à réaliser des choses, ce qui peut être très exaltant, mais aussi à démolir et à nous débarrasser de choses, ce qui est beaucoup moins fructueux et présente bien moins d'intérêt. L'activité humaine est donc pour partie destructrice et pour partie constructive. On ne peut pas construire sans détruire souvent. Et détruire n'est pas rentable en soi, il peut être même dommage de ne pouvoir conserver ce que l'on détruit. L'Ecclésiaste souligne le manque de permanence de nos biens, de nos réalisations. Il faut parfois défaire ce que nous avons fait, ou encore pour certaines choses, toujours les recommencer à nouveau. Il faut labourer chaque année et semer pour récolter à nouveau. Il faut toujours faire la vaisselle pour la salir à nouveau. L'Ecclésiaste constate le manque de permanence de nos relations avec les personnes que nous aimons. Par-dessus tout, le manque de permanence caractérise notre vie. Il y a un temps pour mourir. Le temps nous entraîne à faire tantôt une chose, tantôt son contraire, ce qui peut donner à la vie un côté paradoxal, même parfois un goût d'absurdité. Les circonstances sont parfois telles que la morale elle-même s'en trouve relativisée. Et tout cela rend difficile de savoir quelle ligne de conduite ou d'action convient en telle circonstance. Le positif est donc là, mais limité, entravé, assombri par le négatif. Bien des choses sont rendues inutiles. À quoi servent nos réalisations si tout passe ? Elles et nous avec ? Le manque de permanence des œuvres humaines, la nécessité de détruire, de défaire pour refaire, limite les avantages que l'on retire de son activité. Et cela éclaire la conclusion du verset 9. Quel avantage celui qui œuvre retire-t-il de son pénible labeur ? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun avantage à retirer de son travail, de ses œuvres, mais qu'il y en a peu ou que le bénéfice qu'on en retire reste limité, dérisoire en comparaison avec la peine que l'on se donne. On passe parfois toute une journée à préparer un repas pour des invités, et puis le repas est mangé en une heure ou deux. L'Ecclésiaste ne s'arrête cependant pas à cette conclusion. Car si ce premier constat est vrai, il est encore partiel. Contrairement à ce que ce constat pourrait donner à penser, il y a Dieu. Verset 10. J'ai considéré les activités que Dieu assigne aux humains pour qu'ils s'y occupent. L'Ecclésiaste se réfère ici à l'activité humaine diverse, multiple, complexe qu'il vient d'évoquer. Il affirme que cette activité, avec toute sa diversité, sa complexité, ses aspects paradoxaux, contraires, c'est Dieu qui les assigne aux hommes. Il n'est donc pas question d'y renoncer, même si le bénéfice qu'on en retire reste insatisfaisant à certains égards, ou dans une certaine mesure. Ceci implique aussi que les hommes ne sont pas livrés à un hasard aveugle. Même si nous nous sentons dominés par le temps, entraînés par les circonstances, ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas non plus le hasard qui est notre maître. Dieu est le maître. Et il y a là quelque chose d'encourageant et de rassurant. De plus, verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors cette affirmation n'est pas là pour nier la réalité du mal ou du malheur. Dans l'ensemble de son livre, l'Ecclésiaste nous dit assez que tout est décevant, dérisoire, misérable. Il n'est pas en train de nous faire croire ici que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais je crois qu'il veut nous dire ici trois choses. La première, c'est que le mal et le malheur ne sont en aucune façon de la faute de Dieu. Dieu, lui, fait toutes choses bonnes et belles. La deuxième chose qu'il veut nous dire, c'est qu'en face des misères et des souffrances que comporte la condition humaine, en face du mal, en face du malheur, il y a Dieu qui fait du bien, qui fait toutes choses bonnes et belles. Et il fait cela en son temps, au moment opportun, au moment de son choix. Dieu est donc maître du temps et des circonstances. Il maîtrise quant à lui ce temps que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et il le maîtrise pour faire du bon, du bien, du beau, en dépit des apparences. Et cette affirmation que Dieu fait toutes choses belles, c'est le troisième point, constitue sans doute un élément de réponse à la question du verset 9. Quel avantage l'homme retire-t-il de son ouvrage ? L'activité humaine telle qu'elle a été décrite au début du chapitre paraît bien dérisoire, mais Dieu contrôle les circonstances qui contraignent l'homme à ses activités, souvent peu rentables, parfois contradictoires. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et par conséquent, l'histoire a un sens, et nos activités aussi. Dieu utilise nos activités, aussi dérisoires et si peu rentables qu'elles soient, pour faire finalement tout ce qu'il veut de bon et de beau. Alors, ça vaut quand même la peine de se livrer à ses activités. Dieu fait toutes choses belles en son temps. L'apôtre Paul fait écho à ce propos de l'Ecclésiaste lorsqu'il affirme que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Comme notre sage, l'apôtre Paul affirme à la fois le caractère dérisoire, misérable, frustrant de la condition humaine. Dans le contexte de Romains 8, il parle des souffrances de la vie présente, de la création qui a été soumise à une condition misérable. Et le terme que je rends par condition misérable, c'est le terme clé du refrain de l'Ecclésiaste. Et tout est dérisoire, misérable. Traditionnellement, c'est traduit « tout est vanité ». Mais la vanité, c'est autre chose aujourd'hui en français moderne. On peut traduire « tout est désirable, tout est dérisoire ». Misérable. Paul affirme à la fois ce caractère dérisoire de la condition humaine, y compris celle du croyant, et le caractère bon de l'œuvre de Dieu en notre faveur. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. De plus, nous dit l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans la pensée de l'homme, littéralement dans le cœur de l'homme, la notion de l'éternité. Alors ce texte n'a rien à voir avec une affirmation de l'immortalité de l'âme, comme on l'a parfois pris. Le cœur est ici mentionné, comme bien souvent dans l'Ancien Testament, comme le siège de la pensée. Le sens de la phrase est sans doute le suivant. Dieu a donné à tout homme une certaine conscience qu'il y a plus que les réalités décrites au début du chapitre. Que quelque part, il y a de la permanence, de la durée, et même l'éternité. En l'homme, peut-être en tout homme, il y a la conscience qu'il existe beaucoup plus que ce qu'il vit lui-même, qu'il y a l'éternité. Bien qu'elle nous apparaisse comme quelque chose qui nous dépasse, l'éternité est une notion que nous avons, la notion d'un temps qui ne s'arrête pas, qui s'écoule sans fin. Et cette notion nous donne le sentiment qu'il doit y avoir plus que ce que nous vivons dans la vie présente. Et c'est vrai sans doute pour tout homme, au moins comme un peut-être, comme un possible. Et la plupart des religions à travers le monde affirment la subsistance humaine dans un au-delà. Et le président Mitterrand, c'est bien connu, à la fin de sa vie, s'interrogeait sur ce qu'il y avait, sur ce qu'il y a au-delà de la mort. Pour le croyant, la notion de l'éternité apparaît comme une clé qui donne un sens à sa vie, à son activité sous le soleil, à cette suite de moments contraires. Il y a un sens à tout cela en fonction de l'éternité. Et c'est aussi en fonction de l'éternité que l'œuvre de Dieu est bonne et belle lorsqu'on la considère dans son ensemble. Mais alors là, on bute sur un problème que relève aussitôt l'Ecclésiaste. C'est que nous avons cette notion de l'éternité sans toutefois, dit-il, que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit depuis le commencement jusqu'à la fin. Le problème, c'est que nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas cette éternité. Nous ne voyons pas et ne connaissons pas tout ce que Dieu fait. L'œuvre de Dieu s'inscrit dans cette éternité qui est inaccessible à notre esprit. Et nous manquons de recul pour apprécier les choses. Nous n'avons pas de vue d'ensemble. Nos circonstances, aussi contradictoires qu'elles puissent paraître, ont un sens lorsqu'on les considère dans l'ensemble qu'est l'éternité. Mais comme nous n'avons pas de perspective d'ensemble, nos circonstances nous apparaissent comme quelques morceaux d'un immense puzzle dont nous ne verrions pas l'image. Et donc nos circonstances sont souvent déroutantes. Leur sens demeure insaisissable. Et nous ne voyons pas comment Dieu fait toutes choses belles en son temps. La notion de l'éternité procure à la fois un encouragement, elle nous rassure en ce qu'elle implique qu'il y a un sens à nos circonstances. Un sens qui dépasse le simple constat d'absurdité, de dérisoire dressé par les versets 1 à 9. Mais en même temps, la notion de l'éternité nous frustre, car ce sens reste hors de notre portée, et nous restons parfois avec nos pourquoi sans réponse. Nous ne comprenons pas. les chemins par lesquels Dieu nous fait passer. Alors, quelle exhortation découle de toute cette réflexion ? Versets 12 et 13, une exhortation à jouir du bon qui nous est donné. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour les humains, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant leur vie, et aussi que lorsqu'un homme mange, boit et se donne du bon temps au milieu de son dur labeur, c'est là un don de Dieu. Le bon dont il faut profiter, ce sont les plaisirs tout simples de la vie, y compris les plaisirs matériels comme manger et boire. Alors évidemment, ça n'exclut pas d'autres types de plaisirs, intellectuels, culturels, toutes sortes de loisirs. Les partisans de l'ascétisme n'ont pas lu le livre de l'Ecclésiaste. Ceux qui ne s'autorisent à songer qu'à la piété ou qu'aux choses dites spirituelles se trompent et s'exposent à un déséquilibre de leur vie et de leur personne. Alors c'est vrai, la piété est d'une importance extrême. Mais nous avons aussi besoin de nous faire plaisir, de prendre du temps pour nous adonner à des choses qui nous font plaisir avec ceux que nous aimons. Dieu nous a créés ainsi et on ne l'ignore pas. Sans dommage. Et c'est vrai aussi d'ailleurs quand on est engagé dans le ministère. Cela est un don de Dieu, affirme notre sage. Dieu nous donne des petits plaisirs, parfois aussi des grands, pour que nous en jouissions. Nous en priver, c'est passer à côté des dons de Dieu, c'est nous priver de choses dont nous avons besoin. Alors bien sûr, il y a un danger qui consisterait à faire du plaisir le but de la vie. Ou à négliger nos responsabilités envers Dieu, envers les hommes et envers la création. Parfois, il faut accepter de se priver de certaines bonnes choses pour pouvoir atteindre certains objectifs. Il s'agit de bien fixer ses priorités. Mais on aurait tort de refuser totalement les petits plaisirs que la vie apporte. Il nous faut vivre pour Dieu et non pas pour ces choses. Mais vivre pour Dieu, ça comporte aussi recevoir ces choses, ces petits plaisirs ou ces grands plaisirs qu'il nous donne comme un don de sa part. Et on peut noter ici le contraste entre ce que produit le travail humain, quel avantage l'homme retire-t-il, et ce que Dieu donne. Après avoir affirmé qu'on ne retire qu'un piètre profit de son travail, l'Ecclésiaste souligne pourtant que Dieu donne à l'homme de goûter au bonheur en son travail et grâce à son travail. Le travail est dérisoire, décevant, parce qu'on n'en retire pas un fruit à la hauteur de la peine que l'on se donne. Et c'est dû à la malédiction qui pèse sur le travail humain depuis l'entrée du péché dans le monde. Mais en même temps, Dieu nous donne quand même de retirer quelque chose de bon de notre travail, malgré cette malédiction. Et c'est une grâce de sa part. Déjà, le livre de la Genèse prévoyait que l'homme tire du sol sa subsistance par son travail, malgré les ronces et les épines, malgré la malédiction. Et l'Ecclésiaste voit en cela un bonheur. Et donc, on a dans les versets 12 à 13 un autre élément de réponse à la question du verset 9. Quel avantage ? Dieu donne quand même, et c'est une grâce à l'homme de jouir de bonnes choses grâce à son travail au milieu de son dur labeur. Au verset 14, l'Ecclésiaste prolonge sa pensée du verset 11 sur l'œuvre de Dieu. La permanence existe, c'est celle de l'œuvre de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Je sais, dit l'Ecclésiaste. C'est la certitude de la foi qui ne peut venir qu'en prenant appui sur la révélation de Dieu. Il y a un contraste là avec le tableau des versets 1 à 8. L'activité humaine ne produit rien d'éternel, de durable, mais l'œuvre de Dieu, elle, est durable. Elle est aussi complète, parfaite. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien d'en retrancher. Il y a de nouveau ici de quoi nous encourager et nous rassurer, de quoi aussi nous permettre de vivre l'exhortation à profiter des bonnes choses que la vie nous apporte, en nous reposant sur Dieu et en comptant sur son œuvre. Puisque Dieu fait du bon, du beau, du solide, du durable, du parfait, puisqu'au fond tout est entre ses mains pour le meilleur, alors nous pouvons jouir avec une certaine quiétude des plaisirs que Dieu nous accorde en ce monde, chose que nous ne pourrions peut-être pas faire si tout reposait sur nos épaules à nous. Dieu agit ainsi, dit l'Ecclésiaste, pour qu'on le craigne. En mentionnant l'action divine, l'Ecclésiaste fait sans doute référence à l'action par laquelle Dieu assigne aux hommes ces occupations dont il a été question dans le poème du début, et aussi à l'action par laquelle Dieu a mis dans la pensée humaine la notion de l'éternité. Dieu, de la sorte, par la manière dont il gouverne le monde, Dieu renvoie les humains à leurs limites, aux limites de leurs œuvres et de leurs productions, tout en leur donnant l'idée qu'il y a plus. Par la manière dont Dieu gouverne le monde, il montre à l'homme que l'homme n'est pas maître de sa destinée, que l'homme n'est pas Dieu, qu'il n'est même pas un petit Dieu, que Dieu seul est Dieu, que l'homme n'est qu'une créature, bien petite en vérité. Dieu impose des limites à l'être humain pour le remettre à sa place devant lui, pour que l'homme apprenne à le craindre. Outre la crainte, le terme évoque un profond respect. Cette attitude de déférence que l'on doit avoir face au Dieu grand, majestueux, transcendant, souverain, comme on l'a chanté tout à l'heure, ce Dieu qui tient notre être et notre vie dans ses mains et à qui nous devons tout. Craindre Dieu, c'est aussi se soumettre de manière inconditionnelle, comme nous le devons, à ce Dieu qui a tous les droits sur nous. Dieu seul est maître du temps et des circonstances. Aussi, ce ne sont pas les circonstances qui sont à craindre, mais Dieu. Ainsi, la crainte, le respect de Dieu et la soumission à sa volonté constituent le cadre dans lequel nous devons mener nos activités et aussi dans le cadre dans lequel nous pouvons vivre la jouissance des bonnes choses à laquelle nous sommes exhortés. Verset 15, ce qui est aujourd'hui a déjà été par le passé, ce qui sera demain a déjà été par le passé. L'idée de ce verset nous semble être la même que celle du chapitre 1, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire humaine, le temps, n'apporte pas la nouveauté, c'est-à-dire la possibilité d'échapper à la condition humaine telle que l'Ecclésiaste l'a décrite. La condition humaine demeure ce qu'elle est. Autrement dit, nous n'allons pas refaire le monde. Nous n'allons pas faire venir le royaume de Dieu maintenant sur la terre. Mais c'est au sein de cette condition humaine telle qu'elle est, que nous sommes appelés à vivre, à accomplir nos activités, à profiter aussi des biens que Dieu nous accorde. C'est au sein de cette condition humaine telle qu'elle est que nous sommes appelés à vivre la crainte empreinte de respect et de soumission envers Dieu. Ce n'est pas dans une situation idéale qui reste hors d'atteinte. Il n'est pas possible d'échapper aux vicissitudes de la condition humaine dans le temps présent. Il nous faut donc cultiver le contentement avec les petits plaisirs qu'elle peut nous offrir. Et c'est Dieu qui fait en sorte que l'homme ne puisse pas échapper à la condition humaine telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est lui, nous dit l'Ecclésiaste, qui va rechercher ce qui a disparu ou ce qui est passé. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que se produisent toujours les mêmes choses, que les activités, les événements qui ont été évoqués dans le poème du début du chapitre s'imposent toujours aux humains et qu'ainsi la condition humaine demeure toujours identique à elle-même sans que l'homme puisse lui échapper. C'est une manière dont Dieu place l'homme face à ses limites pour lui apprendre à craindre Dieu. L'Ecclésiaste vient de nous dire que Dieu fait toutes choses belles et que son œuvre est parfaite. Et pourtant, le mal est là, le mal est partout dans l'existence humaine. Alors, le verset 16 pourrait avoir pour fonction de souligner que si le mal est là, la responsabilité en revient à l'homme et non pas à Dieu. L'Ecclésiaste relève ici que même les humains qui sont chargés de faire respecter le droit et la justice, même ceux-là font le mal. J'ai encore constaté que sous le soleil, l'iniquité règne au tribunal et l'on rencontre le crime où l'on administre la justice. Au tribunal, là où on devrait rendre la justice à ceux qui ont été lésés, règne l'iniquité ou le crime. Des sens possibles du mot hébreu. Alors si ceux qui sont chargés de faire respecter la justice font le mal, il ne faut pas s'étonner si le mal est partout. Et si les hommes politiques qui sont chargés de nous gouverner prennent des décisions iniques, il ne faut pas s'étonner si le mal est partout. Mais alors que fait Dieu? Pourquoi laisse-t-il le mal s'installer chez les humains? Peut-on encore croire que Dieu fait toutes choses belles alors qu'il n'intervient pas contre les injustices? L'Ecclésiaste fournit un élément de réponse à cette question. Oui, c'est vrai, si pour le présent le mal est partout chez les humains, Dieu rétablira la situation et instaurera un jour une justice parfaite en son temps. Je me suis dit en moi-même, verset 17, « Dieu jugera le juste et le méchant, car en ce qui concerne le jugement, il y a un temps pour toute affaire et pour tout acte. » De quel jugement s'agit-il? On pourrait penser à un jugement intervenant dans la vie présente, car Dieu fait justice de manière partielle déjà dans le présent. Le bon sens populaire nous dit qu'il y a une justice dans ce monde. Dieu le fait quand il le juge bon, en son temps. Mais l'Ecclésiaste vient juste de parler des injustices. Plus loin, il soulignera qu'il y a des méchants qui ne reçoivent pas la rétribution de leurs actes dans cette vie-ci et des justes qui connaissent le sort qui devrait échoir aux méchants. L'Ecclésiaste est suffisamment lucide pour ne pas attendre l'avènement d'une justice pleine et entière dans la vie présente. Et donc, lorsqu'il parle ici du jugement, il doit penser au jugement futur. Un jour, Dieu rétablira pleinement la justice en exerçant ses jugements à la fin des temps. Il y a un temps de Dieu pour cela, car Dieu est le maître du temps. Alors, cette réflexion sur le jugement à venir rejoint la perspective de l'éternité. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous constatons le désordre, l'injustice, la corruption, l'iniquité. Un jour, Dieu rétablira l'ordre. Et lorsque Dieu exercera son jugement en son temps, on verra, à la lumière du grand dénouement, que même si le mal règne aujourd'hui, l'œuvre de Dieu du début à sa fin est parfaite et que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors je termine. L'Ecclésiaste, comme dans notre texte, comme dans l'ensemble de son livre, a relativisé l'importance et la valeur de nos entreprises en ce monde en soulignant le manque de permanence qui s'attache à nos réalisations, les incertitudes qui pèsent sur ce qu'il convient de faire en telle ou telle circonstance, l'impossibilité d'atteindre l'idéal. Dieu seul fait toute chose belle, parfaite, complète, achevée. Mais de cette manière, l'Ecclésiaste nous délivre du poids de la responsabilité impossible à assumer, la responsabilité de changer le monde et de faire venir le paradis sur terre. Il nous enseigne à nous garder à la fois de l'ascétisme et de l'activisme. Il veut nous libérer de la recherche de la rentabilité maximum à tout prix, pour laquelle nous sacrifierions tout le reste. Il nous invite simplement à accomplir nos activités, à assumer nos responsabilités, mais aussi à savoir nous arrêter pour jouir des bonnes choses, des plaisirs que Dieu nous accorde. Mon activité n'est pas si importante que cela au point que je devrais y sacrifier toute jouissance des plaisirs que Dieu nous accorde. En fait, mes réalisations seront toujours en deçà de ce qu'elles devraient être et elles ne dureront pas pour la plupart. Leur valeur demeurera toujours relative. Mais en même temps, nos réalisations ne sont pas inutiles, car elles s'inscrivent dans le cadre de l'œuvre belle que Dieu accomplit. Nos réalisations constituent quelques pièces de l'immense puzzle qui apparaîtra un jour dans l'éternité. Aussi, l'Ecclésiaste nous invite-t-il à attribuer sa juste place à chaque chose, à chaque activité, à chaque entreprise, ainsi qu'à chaque plaisir ou à chaque loisir. Et parmi les bonnes choses que Dieu nous accorde, il y a les vacances, les loisirs qu'elles permettent, il y a les dimanches, les repas en famille. Alors si vous êtes en vacances ou si vous avez l'occasion de profiter de votre dimanche, eh bien profitez-en bien, en vous souvenant que Dieu fait de nos circonstances ce qu'elles sont, pour nous apprendre à le craindre. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Le temps est venu pour moi de me taire.